Il est midi, Info Week-end avec Lionel Sabot.
Lana Prost, nouvelle reine de beauté à 17 ans. Elle a été élue hier soir Miss Nouvelle-Calédonie 2026. Elle succède à Juliette Collet. Lana Prost représentera le territoire en décembre prochain à l'élection de Miss France. Le lycée Jean 23 de Paytan ne pourra pas accueillir les élèves la semaine prochaine. Un incendie a provoqué de très gros dégâts dans l'établissement. L'origine criminelle du sinistre ne fait aucun doute. Le haut-commissaire Jacques Billon estime que la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui pacifiée. Il l'a affirmé vendredi midi dans le magazine Transparence, extrait dans ce journal. Les prochaines heures peuvent être difficiles en Gironde. Aveu du Premier ministre Sébastien Lecornu, après une légère amélioration, le feu a repris de la vigueur dans la matinée. Les flammes se rapprochent de Bordeaux. De nouveaux renforts sont actuellement dépêchés sur place pour contenir ce méga-feu. Un avion militaire A400M, équipé d'un réservoir spécial, est entré en action. L'appareil a pu effectuer un premier largage la nuit dernière. Le cyclisme et la victoire de Richard Carapaz sur l'étape reine du Tour de France. L'Équatorien a remporté la 20e étape à l'Alpe d'Huez devant le Belge Evenepoel et l'Américain Kuss. Paul Sexas ne montera pas sur le podium. Et puis en Nouvelle-Calédonie, la 4e réunion hippique de la saison, à la fois sur le prix Jacques Lafleur, victoire de The Star devant Earth Magical et Super Kiwi. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce journal. Lana Prost est donc Miss Nouvelle-Calédonie 2026 et l'ambiance était au rendez-vous hier soir dans les jardins du Nouméa Resort & Spa. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement dans le public pour soutenir leurs favoris parmi les 8 candidates à prétendre à la couronne de Juliette Collet. Soirée de gala qui avait pour thème voyage en beauté. Les jeunes femmes de 17 à 28 ans ont défilé dans différentes tenues, en hôtel de l'air, en maillot de bain et bien évidemment en tenue de soirée. Écoutez la réaction de Lana Prost, la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie 2026.
Votre nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie 2026
et restera.
Allez Lana, Lana Prost.
J'avais pas entendu mon nom et prénom, donc. Mais le câlin avec Estelle m'a beaucoup rassurée, surtout à ce moment-là, parce que c'est beaucoup d'informations qui tombent d'un coup. Ça veut dire que dans quelques mois, c'est la métropole, et je vous avoue, quand on passe son bac cette année, ça me met un petit peu la pression. J'ai la chance d'avoir des proches qui me suivent beaucoup et qui m'ont toujours encouragée. Je me suis jamais sentie seule durant cette aventure, et je pense que c'est l'essentiel. Je veux montrer les multiples ethnies qui sont dans notre pays, justement. Et montrer à quel point elles m'ont construite, car j'ai grandi dans un monde cosmopolite grâce à la Nouvelle-Calédonie, et j'espère pouvoir montrer à la France que c'est un bel endroit. Et j'espère aussi leur donner envie de venir en Nouvelle-Calédonie parce qu'on essaie quand même de relancer le tourisme local.
Et pour cette soirée de gala, Lana était accompagnée de ses proches, de ses parents. Écoutez la réaction de son papa, Gérald Prost, ancien directeur d'antenne de Radio Rythme Bleu.
Encore une fois, ma fille m'a troué le cœur. Et je suis très fier d'elle. Simplement, pour moi, Lana, c'est ma fille, oui, mais c'est aussi avant tout une belle personne avec beaucoup d'empathie. Et je crois que c'est ce qui a plu au public. Elle n'a pas eu un discours pour sauver le monde. Elle a été naturelle. C'est ce qu'elle sait le mieux faire. Je suis très fier, très fier. Ravi, bien sûr. Jusqu'à la fin, on a des doutes, ça, mais je croyais de toute façon. Mais là, ça, c'est mon expression, mais ça vous pète à la gueule. C'était beau et c'était bon.
Et Estelle Talatini et Ivaki Berto sont les dauphines de Lana Prost. Écoutez la réaction de la deuxième dauphine, Ivaki Berto.
Ivaki Berto, j'ai 23 ans. Je suis la deuxième dauphine ce soir et je suis très contente. Alors ça a été beaucoup de moments de stress, de doutes également, mais aussi beaucoup d'amusement avec les filles. Je me suis créée une famille, on va dire, et je suis très heureuse de cette aventure.
Terminée deuxième dauphine, contente ?
Ah, très contente, je suis très contente pour Lana et Estelle, et c'est mes copines, donc je suis la plus heureuse. À vivre qu'une seule fois, je le referai pas deux fois, mais foncez les filles, c'est une aventure extraordinaire.
On a des propos recueillis hier soir par Kalida Boaku, Lana Prost, nouvelle Miss Calédonie 2026 qui s'envolera début novembre et qui représentera donc la Nouvelle-Calédonie à l'élection de Miss France 2026. Ce sera en décembre prochain. Lana Prost qui devait être notre invitée dans ce journal, mais pour des raisons contractuelles, elle n'a finalement pas pu venir nous rejoindre sur ce plateau. Au chapitre des faits divers, la désolation, la consternation aussi au lycée Jean 23 à Païta ce dimanche, au lendemain de l'incendie qui a touché une partie de l'établissement. Les équipes techniques poursuivaient ce matin les constatations sur place et les dégâts sont considérables, Michael Juneski.
Oui, l'un des restaurants d'application servant aux élèves en CAP cuisine et CAP service s'est entièrement embrasé. Le restaurant La Case, le second restaurant ouvert au public, n'a lui pas été touché. Les flammes se sont donc propagées hier soir à des cuisines ainsi qu'à des bâtiments adjacents. Une réunion se déroulait ce matin avec déjà des décisions pour les élèves scolarisés dans l'établissement de l'ADEC. Stéphanie Steinf, la directrice du lycée professionnel et hôtelier Saint-Jean 23 de Païta.
On perd le restaurant d'application La Case et on a deux cuisines qui sont détruites au niveau de la structure et on pourrait éventuellement récupérer un petit peu de matériel dans ces deux cuisines. Le préjudice va être très dur à surmonter, c'est plus de 20 millions de pertes. On va voir comment on peut remédier à tout ça et travailler sans jusqu'à la fin de l'année tout au moins. C'est dommageable étant donné que c'est le premier restaurant d'application qu'on a fait sur le lycée, donc c'est notre vieille case qu'on connaît depuis des années d'enseignants, d'élèves sans passer par ce plateau technique. Donc oui, historiquement, c'est compliqué et ça touche la formation des élèves. Et c'est ça qui, moi, me dérange, c'est qu'on est en train de former nos jeunes. Quel que soit, Jean 23 prend des élèves du nord, des îles et d'un peu partout. Ces élèves-là ne peuvent pas être formés demain ou on va faire différemment, du moins. On a élaboré une réunion ce matin. La décision, c'est qu'on ferme l'établissement pendant une semaine. On va garder nos étudiants en BTS puisque y a les examens qui sont importants et qu'ils ont un événement mercredi. Je vais mettre l'accent sur la reprise de mes CAP cuisine et service vendredi matin. Donc la reprise sera uniquement avec ces élèves-là pour faire de la proximité avec mes familles et puis les élèves, parce que c'est important. La semaine suivante, on va reprendre totalement l'établissement. Ça va me laisser le temps avec mes équipes de pouvoir organiser cette semaine avant les vacances particulières et différentes et même après les vacances.
Toutes les familles vont être contactées. 450 élèves sont accueillis, dont des élèves en classe d'inclusion porteurs de handicap. Le commissariat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont déjà fait part de leur soutien à la direction diocésaine de l'enseignement catholique, tout comme le maire de Païta, Antoine Romain, qui était sur place ce matin.
Je suis évidemment sur les lieux ce matin pour apporter évidemment le soutien de la commune, à la fois surtout ce matin au personnel, mais je pense évidemment aux élèves qui vont être plus que pénalisés, aux familles, aux anciens élèves, pour apporter aussi de l'aide logistique. Malheureusement, cet établissement a déjà connu par le passé des exactions, des incendies, on s'en souvient en 2024. C'est effectivement fortement regrettable. Je tiens aussi à saluer les sapeurs-pompiers de la commune de Païta qui sont intervenus dans un délai extrêmement court, ce qui n'a malheureusement pas permis de sauver le bâtiment, mais de sauver en tous les cas tous les bâtiments qui sont autour. Et puis aussi faire part de notre exaspération et de notre colère. De ce qu'on en sait ce matin, a priori, il est quand même très clairement d'origine volontaire et criminelle. On va travailler maintenant avec l'ADEC pour pouvoir continuer la sécurisation de cet établissement. Enfin, l'objectif, ce n'est pas non plus de faire de ces écoles, de ces lycées, de ces collèges, des prisons, en termes de sécurité, s'entend. Mais malheureusement, on a toujours des individus qui trouvent les failles pour pouvoir commettre leurs méfaits. C'est extrêmement regrettable, mais on est évidemment, la commune, aux côtés de l'ADEC dans cette nouvelle épreuve ici au lycée Jean 23.
Les gendarmes poursuivent aujourd'hui les constatations et lancent les investigations après ce sinistre dont l'origine criminelle ne fait aucun doute. L'ADEC, on le rappelle, a donc indiqué que seuls les étudiants en BTS seront accueillis la semaine prochaine. Les autres élèves de l'établissement ne pourront pas être scolarisés la semaine prochaine, le temps que les équipes techniques puissent faire les travaux nécessaires pour pouvoir de nouveau permettre l'accueil des jeunes dans de bonnes conditions.
Et dans un communiqué publié il y a quelques instants, le gouvernement tient à adresser son plein soutien l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement, la direction, les équipes pédagogiques, les personnels administratifs et techniques, ainsi que les élèves et leurs familles durement touchés par cet événement. Le gouvernement qui salue également dans ce communiqué l'intervention rapide et l'engagement des services de secours dont l'action a permis, et lit-on sur ce communiqué, de maîtriser l'incendie et de sécuriser les lieux. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui indique également que dans cette épreuve, il tient à réaffirmer mais sa solidarité avec l'enseignement catholique et l'ensemble des personnes concernées. C'était hier soir à minuit, la date limite du dépôt des listes de candidats pour la formation du 19e gouvernement qui doit être élu vendredi prochain, le 31 juillet. Ce midi, Michael, on connaît la composition, on va dire probable, des futurs membres de ce nouveau gouvernement.
Oui, les partis du pacte de gouvernance auront 6 membres dans ce nouvel exécutif, 4 loyalistes, un rassemblement et un éveil océanien. Les indépendantistes auront 5 membres, 4 UCF-LNKS et un membre uni. Hier, le député Nicolas Metzdorf, nous vous le disions, avait publié la liste des quatre loyalistes qui seront élus. Il s'agit de Christopher Gigès, des Républicains calédoniens, de Laurent Bonnefond, une personnalité de la société civile qui est présentée par le MPC, et de deux membres nommés par Génération NC, en l'occurrence le maire du Mont-d'Or, Nina Julier, et Philippe Blaise du MRC. Nicolas Metzdorf justifie ce choix qui peut surprendre par la volonté de réunir l'ensemble des personnalités non indépendantistes. Pour le Rassemblement Les Républicains, c'est Alcide Ponga qui sera élu et Mila Kulo Tukumuli sera élu au titre de l'éveil océanien. Côté indépendantiste, selon nos informations, les membres UC du gouvernement devraient être Gilbert Thuyénon, Juanito Wamitan, Ernest Démené et Meryl Marlier. Et c'est Billy Forrest qui sera présenté par l'UNI pour siéger au gouvernement.
Le haut commissaire Jacques Billon estime que la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui pacifiée. Il était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael.
Le haut commissaire s'exprimait à l'issue de la période de réserve due à la période électorale et il constate que ces élections provinciales se sont bien passées. Il avait trois priorités, la sécurité matérielle, juridique et publique du scrutin. Et il relève que la campagne s'est déroulée dans un climat serein et que les résultats n'ont pas donné lieu à contestation. Il avait reçu des renforts de forces de l'ordre pour cette période, mais aujourd'hui les effectifs ont diminué.
Pour la campagne provinciale et jusqu'à l'installation du Congrès, nous avons pu bénéficier à ma demande de 4 escadrons de gendarmes mobiles supplémentaires. Comme convenu avec le ministre de l'Intérieur, ces derniers ont bien quitté le territoire à la mi-juillet et nous sommes aujourd'hui au même niveau de force que la période avant les élections, c'est-à-dire 12 escadrons en renfort, ce qui, je le rappelle, est un effort très important du ministère de l'Intérieur pour la Nouvelle-Calédonie. Ce sont 840 gendarmes en renfort, ce qui porte le nombre total de policiers et gendarmes présents en Nouvelle-Calédonie à 2000.
Et Jacques Billon indique qu'il a rendez-vous la semaine prochaine avec le ministre de l'Intérieur pour faire le point sur les besoins de la Nouvelle-Calédonie en force de l'ordre. Le haut commissaire, interrogé sur la sécurité publique et sur la lutte contre la délinquance, alors que le bilan a été publié au mois de mai.
Sur l'année 2025, on a déjà pu observer une baisse, et c'est important, des violences de type urbaine. Je pense aux feux, aux dégradations, aux jets de projectiles. Et cette baisse est encore plus importante depuis le début de l'année 2026. Cette baisse nous ramène finalement au niveau auquel on se situait en 2023. Ce qui montre que la délinquance urbaine est désormais contenue et que la situation sur le territoire est pacifiée.
La situation est pacifiée, mais on note en revanche une hausse de la délinquance d'appropriation, c'est-à-dire des cambriolages d'habitations. 923 cambriolages ont été recensés depuis le début de l'année contre 785 à la même époque en 2025. Le premier axe stratégique fixé par le haut-commissaire, c'est le rétablissement de la sécurité du quotidien avec des priorités clairement établi.
La présence sur le terrain est essentielle, tout comme l'équipement des communes en vidéoprotection. Et sachez qu'en 2025, l'État a financé au profit des communes de nouvelles caméras de surveillance, de vidéosurveillance, pour 22 millions de francs. Et cela doit nous permettre d'avoir une réponse plus efficace des forces de l'ordre. Je rajouterai qu'en 2025, le taux d'élucidation des cambriolages en Nouvelle-Calédonie était de 33%, alors qu'il se situe à 7% au niveau national. Près de 1000 personnes, c'est important, près de 1000 personnes ont été interpellées pour ce type de fait. Donc nous sommes présents sur le terrain et nous avons une action que je souhaite vraiment très opérationnel pour lutter contre ce fléau.
Le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance qui concerne la période 2026-2028 est porté par l'État et par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et il comprend deux axes majeurs, la lutte contre les addictions et la lutte contre les violences intrafamiliales. Jacques Billon précise que les infractions liées au trafic des stupéfiants ont doublé en 6 ans avec près de 1000 faits constatés depuis le début de l'année et la destruction de milliers de plants de cannabis. Il faut aussi prévenir l'arrivée de drogues dures sur le territoire.
Si la Nouvelle-Calédonie est bien sur la route d'un trafic mondial de stupéfiants, elle n'est pas à ce stade un pays d'arrivée de ces substances, mais il faut quand même être sur nos gardes et prévenir ce phénomène qui pourrait arriver. Si on ne fait rien, ça arrivera sans nul doute. Ça nécessite à ce titre une grande coopération régionale en matière de renseignement avec les pays voisins. C'est ce que nous faisons avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi avec les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud. Et à ce titre, sachez que nous avons souhaité souhaitez mettre en place un séminaire régional de lutte contre le trafic de stupéfiants qui sera organisé ici d'ici la fin de l'année dans la continuité d'un séminaire régional que nous avions déjà organisé avec les douanes en mars dernier.
La lutte contre les ingérences étrangères fait partie des priorités et le haut commissaire a été interrogé sur les récentes déclarations du président Aliyev qui appelle à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Je ne reviendrai pas sur les déclarations récentes des autorités azéries. Les parlementaires de Nouvelle-Calédonie et notamment le député Metzdorf a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Il a saisi le ministre des Affaires étrangères. Néanmoins, je souhaite à mon niveau insister sur la mobilisation de l'État sur ce sujet de l'ingérence et notamment de l'ingérence informationnelle d'autorités étrangères. Et je rappelle à ce titre que j'en ai fait un des axes de la sécurité de ces élections provinciales en mettant en place un dispositif de protection des élections pour prévenir ce type d'acte en lien avec les services du Premier ministre qui étaient vraiment très engagés sur ce sujet.
Mais aucun incident n'a été à déplorer pendant la période des provinciales. Le haut commissaire a aussi été interrogé sur le pacte de relance et de refondation et sur l'aide de l'État.
Après les épreuves traversées par le territoire en 2024, l'État a fait un choix. Et ce choix, c'est celui de la solidarité nationale, c'est celui de la responsabilité. Et ce pacte a vraiment vocation à marquer une nouvelle phase, celle de la relance, celle de la confiance retrouvée dans l'économie. Et il vise à donner de la visibilité et de la confiance à tous les acteurs économiques du territoire. Ils en ont besoin, nous en avons besoin.
Ce pacte a pour objectif de favoriser l'attractivité des entreprises, de continuer à financer le chômage partiel. Mais il prévoit aussi un vaste investissement dans la jeunesse. Et Jacques Billon évoque notamment la création d'une nouvelle compagnie du RSMA que la ministre des Outre-mer doit annoncer la semaine prochaine. Le pacte doit également permettre de réaliser les infrastructures essentielles avec le plan de relance. 17 milliards ont déjà été injectés par l'État et le haut-commissaire précise que dans la vague 1, il y a eu 106 entreprises attributaires et alors que la vague 2 a été annoncée la semaine dernière, il explique comment il sélectionne les opérations retenues.
Le critère principal pour moi, au moment de la sélection, c'est la maturité des projets. Je regarde vraiment les dossiers pour voir s'ils sont suffisamment matures et pour savoir s'ils ont la capacité à démarrer dès cette année 2026. C'est pas un nouveau contrat de développement, c'est un plan de relance. Et qui dit plan de relance dit urgence. Et donc vraiment, ce plan de relance a pour objectif de générer des travaux, de générer le travail des salariés des entreprises calédoniennes dès cette année 2026. Donc le Premier ministre attend de moi que je sélectionne des projets qui démarrent en 2026 pour avoir un effet concret dès cette année sur l'économie calédonienne. C'est pour ça que je parle souvent de course contre la montre.
Interrogé enfin sur l'avenir institutionnel, le haut commissaire estime qu'il est trop tôt pour évoquer la reprise éventuelle des discussions dans l'attente de l'installation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une interview du haut commissaire Jacques Billon qui sera rediffusée ce soir après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet. RRB, il est midi et 19 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole.
Votre enfant part étudier en métropole ? La province sud l'accueille à Paris les 16, 18 ou 21 août. Le logement, les repas, le transport et les ateliers pratiques, tout est pris en charge, qu'il soit boursier ou pas. Remplissez le formulaire d'inscription avant le vendredi 31 juillet sur province-sud.nc. La province sud, agir pour l'avenir.
Vous êtes un aidant, le sujet des donations vous intéresse ? Le Lions Club et le CCAS de Nouméa vous invitent ce lundi 27 juillet à 17h30 pour le prochain rendez-vous des aidants dans la salle d'honneur de la mairie. Maître Stéphanie Lobro animera cette conférence dédiée aux donations. Entrée libre pour tous.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Lionel Sabot.
Les prochaines heures peuvent être difficiles en Gironde. C'est l'aveu de Sébastien Lecornu tôt ce matin pour nous. Le Premier ministre l'a indiqué à la sortie d'une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise à l'hôtel Matignon. Après une légère amélioration jusqu'à ce matin pour nous, les prévisions météorologiques sont redevenues défavorables et le feu a même repris de la vigueur dans la matinée. Un feu hors norme qui est aux portes de Bordeaux. Selon son maire Thomas Cagenave, l'incendie n'est plus qu'à 15 km de la ville. Un incendie qui a déjà détruit 32 700 hectares et 140 maisons en Gironde. En tout, ce sont plus de 220 000 personnes qui ont dû être évacuées, dont 70 000 dans les communes toutes proches de Bordeaux. Pour 6 000 d'entre elles, elles ont trouvé refuge au parc des expositions de Bordeaux qui a été transformé en centre d'accueil d'urgence. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Dans cet immense hangar, chacun s'est créé son espace avec les moyens du bord. 3 lits de camp, un tatami en guise de matelas, une table en plastique pour une famille de 5. Un peu plus loin, Monique et Denis, 72 ans, n'ont pu trouver qu'un seul lit.
On fera le relais. Hein. Il surveillera les animaux pendant que lui, il dormira ou vice versa.
Les deux retraités jouent au Scrabble pour passer le temps et déjouer la fatigue. Ils se remettent d'une nuit mouvementée, évacués de Saint-Médard à une dizaine de kilomètres de Bordeaux.
J'étais bien stressée quand j'ai entendu l'alarme. Je m'y attendais, oui. Et à une heure, quand la sonnerie a retenti sur son téléphone et le mien, ça a été short. Hein.
Vous êtes en train de dormir à ce moment-là?
Bah, bien sûr.
À l'autre bout du hangar, une infirmière vient prendre des nouvelles de Jeanne. Son mari, malade, a besoin de soins, même si elle a réussi à embarquer l'essentiel avant de quitter son appartement.
Il a un cancer de la gorge. Tout ce qui est installé à la maison, il faut tout emmener. Les médicaments, l'alimentation, ces doses, ça ne va pas pouvoir durer. On va être obligé de partir. J'ai rendez-vous avec le docteur, on a des prises de sang.
Rentré à la maison rapidement, Ludovic ne pense qu'à ça depuis 3 jours, incapable de fermer l'œil.
On est toujours dans l'angoisse. Bah, le retour de voir le village détruit, quoi, ça fait peur.
Son village, le Porge, est au cœur des incendies. Par chance, sa maison, il vient de la prendre, est encore debout.
Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bordeaux, dans le nord du département de la Gironde. La préfète de région, Sophie Broca, a demandé formellement au maire de réfléchir aux possibilités d'accueil qu'il pouvait rapidement mettre en œuvre pour recevoir les évacués des zones sinistrées. Christophe Brochet pour Europe 1.
Avec une réunion des maires concernés à la sous-préfecture Libourne, lors d'un comité d'agglomération. L'État, par cette demande, fait tout pour ne pas être pris au dépourvu. Objectif anticipé, encore et toujours, connaître les capacités d'accueil des uns et des autres en cas d'aggravation de la situation pour déclencher au plus vite des hébergements d'urgence supplémentaires. Quelques exemples. Saint-Denis-de-Pile, au nord de Libourne, 6000 habitants, propose une salle polyvalente qui a l'avantage d'être équipée de douches et de toilettes. Et ce dimanche, les habitants sont invités à faire des dons pour les évacuer, tels que des couverts jetables, des couches pour bébés ou bien encore du café moulu. Autre exemple, Coutras, à quelques encablures de la frontière avec la Dordogne, un peu plus de 8000 habitants. La commune possède plusieurs espaces et pourrait accueillir, si nécessaire, une centaine de personnes, selon son édile Jérôme Cosnard. Les services de la préfecture veulent surtout épingler, retenir les communes qui possèdent une gare afin d'acheminer les éventuels évacués, ce qui est le cas de Saint-Denis-de-Pile ou de Coutras.
Christophe Brochet dans le nord de la Gironde pour Europe 1. Les fumées et les flammes qui continuent donc de progresser dans le sud-ouest. De nouveaux renforts sont actuellement dépêchés sur place pour contenir ce que l'on appelle désormais les méga-feux. 1500 militaires sont mobilisés depuis quelques heures afin de protéger les biens et les personnes. Par ailleurs, un avion militaire, un Airbus A400M équipé d'un réservoir 3 fois plus important que les réservoirs d'un Canadair, est entré en action. L'appareil a pu effectuer un premier largage, c'était la nuit dernière. Antoine Bienvaux.
Une première opération spectaculaire menée près de Lacanau, commune proche de l'océan et assiégée par les flammes. En vol à basse altitude, la 400M a déversé sur une zone encore épargnée par le feu 20 000 litres de produits retardants. Alors le produit retardant, c'est cette substance rouge qui, une fois au sol, permet de ralentir la progression de l'incendie. Il s'agissait donc là d'une première opération en conditions réelles pour la 400M. Une réussite technique, selon Xavier Titelmann, spécialiste en aéronautique, qui appelle cependant à la prudence.
L'avion, il est fait pour voler en très basse altitude, il est fait pour s'alléger de quelques dizaines de tonnes en quelques secondes, puisque c'est ce qu'il fait quand il va larguer des blindés, quand il va faire du parachutage. Mais c'est un avion de plus. Il ne faut pas croire que ça va changer énormément les choses, parce qu'on est quand même sur un manque dramatique qui s'accumule depuis des années. Néanmoins, il a une capacité de largage qui est très importante, c'est quasiment 2 à 3 fois ce qu'on a d'habitude avec un Canadair, et toute aide est bonne à prendre aujourd'hui.
Et après ce premier passage, la 400M a dû se ravitailler, mais contrairement au Canadair, canadaires qui peuvent remplir leur soute dans l'océan. L'appareil militaire, lui, doit se réalimenter sur une base aérienne. Une opération au sol qui prend une dizaine de minutes, selon Airbus, son concepteur, en plus donc du temps de trajet entre l'aéroport et les flammes. Selon l'armée de l'air, le premier largage cet après-midi a été un succès et un deuxième pourrait avoir lieu dans les prochaines heures.
Et toujours à propos de ces feux de forêt dans le sud-ouest, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire alerte sur les risques que représentent les fumées qui sont générées par ces incendies sur les populations. Face à ce danger pour la santé, les autorités ont déployé 2,5 millions de masques FFP2 vers la Gironde pour protéger évidemment les secouristes, mais aussi les populations exposées. Benoît Elbeau est le directeur de l'Agence régionale de santé de Gironde.
La région a été alimentée avec des stocks stratégiques de 1,5 million de masques FFP2 plus 1 million supplémentaires qui arrivent de la région Occitanie, soit 2,5 millions de masques FFP2 pour être sûr de ne pas manquer de masques pour les gens qui seraient soumis à respirer ces fumées et en priorité bien sûr pour les personnes les plus à risque qui ont des pathologies respiratoires.
Benoît Elbeau, le directeur de l'Agence régionale de santé de Gironde. Dernier mot à propos de ces incendies, ceux d'Emmanuel Macron. Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra. La France révèle ce qu'elle est, un peuple uni qui se serre les coudes, écrit le président de la République sur X. Midi 26, une dernière pause, dans un instant le sport.
Parole de bénévole, c'est avec la BNC, la banque qui soutient les héros du quotidien. Associations, sportifs, entrepreneurs, patentés, particuliers, étudiants, qui que vous soyez, découvrez Parole de bénévole tous les mardis à 11h et 16h avec la BNC.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et au cœur de l'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va commencer avec le cyclisme et bientôt le dénouement pour le Tour de France.
Suivez le Tour de France avec Mazda. Besoin d'une nouvelle voiture ? Avec Mazda, trouvez la voiture adaptée à vos besoins. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda. Passez nous voir au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Et l'étape reine de cette édition 2026 se disputait hier soir avec une nouvelle ascension de l'Alpe d'Huez, la deuxième en deux jours, Michael Juneski.
Oui, et c'est l'équatorien Richard Carapaz qui s'est imposé pour signer sa deuxième victoire d'étape cette année sur la Grande Boucle, tout en assurant les points suffisants pour conserver le maillot à poids de meilleur grimpeur. Il a devancé le Belge Remco Evenepoel et l'Américain Sepp Kuss. Le Français Paul Sexas n'a pas réussi à revenir sur le Mexicain Isaac Del Toro, troisième du général, le tricolore. Alors, pour sa première participation, on le rappelle, le Tour de France a limité la casse pour rester en quatrième position au classement. Alors ce soir, Tadej Pogacar, le Slovène, roulera bien évidemment vers la victoire finale sur les Champs-Élysées. Le maillot jaune compte une avance plus que confortable, plus de 6 minutes sur le Belge Remco Evenepoel. L'ultime étape sera raccourcie la nuit prochaine, notez-le, en raison évidemment des incendies en métropole qui mobilisent les forces de l'ordre. C'est-à-dire que le parcours finalement de 89 km se disputera uniquement dans Paris intramuros. Les explications de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
La dernière étape du Tour de France sera réduite. Il y aura bien un village départ à Thoiry dans les Yvelines. Il y aura bien la présentation des équipes. Mais ensuite, les coureurs monteront dans leur bus, iront jusqu'à Paris, jusqu'au circuit des Champs-Élysées, où le départ de l'étape sera donné à 17h50. Il y aura deux tours supplémentaires sur le circuit des Champs-Élysées, c'est-à-dire 6 tours avant d'effectuer les 3 montées. Vers la butte Montmartre et de connaître ensuite le vainqueur du Tour de France. Une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle bien évidemment. L'étape était prévue à 133 km, elle en fera finalement 89.
Le départ de cette toute dernière étape du Tour de France 2026, la grande parade pour la Grande Boucle à Paris, ce sera donc la nuit prochaine, départ à 2h50 du matin pour nous.
Les sports mécaniques à présent avec la Formule 1 et le Grand Prix de Hongrie.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et après un début de saison dominé par Mercedes, la concurrence passe à l'offensive. C'est Lando Norris sur McLaren qui a signé la pole position sur le Hungaroring.
Et pour la première fois de la saison, donc ce n'est pas une flèche d'argent qui a signé cette pole. Lando Norris sur McLaren a été le plus rapide. Plus rapide d'ailleurs pour 12 petits millièmes seulement que Lewis Hamilton, même si celui-ci a écopé par la suite de 3 places de pénalité pour une gêne durant ses qualifs, tout comme Kimi Antonelli d'ailleurs, le leader du championnat du monde, qui avait signé lui le 4e temps de référence. C'est donc Charles Leclerc sur Ferrari qui a hérité de la deuxième position sur la grille de départ. Oscar Piastri et Max Verstappen partiront eux de la deuxième ligne. Lewis Hamilton s'élancera de son côté de la cinquième place devant les Mercedes de George Russell et Kimi Antonelli. Côté français, Isaac Hadjar a signé le 8e temps de référence. Pierre Gasly partira de la 12e place. Esteban Ocon de la 15e position. Le Grand Prix de Hongrie, 11e manche du championnat du monde, sera à suivre ce soir. Départ à minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
En bref, de l'athlétisme avec un nouveau titre de champion de France de lancer de javelot pour Félicé Vaille-Sostaya. Il a réalisé la meilleure performance du concours organisé à Albi. C'était la nuit dernière. Sur le territoire, Mickaël, la quatrième réunion hippique de la saison se déroulait hier sur l'hippodrome Banu à la fois.
Avec notamment la victoire sur le prix Jacques Lafleur de The Star, le cheval entraîné par Steve Adantvillier, propriété de Christian Robert et Marilyn Fogliani, qui avait gagné la dernière Coupe Clark. Il a devancé Heart Magical et Super Kiwi. On notera également la victoire de Star de Watom de l'écurie Kauma sur le prix d'encouragement de la province sud. Les précisions de Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques.
Un meeting qui est important, puisque c'est un meeting de course à un mois maintenant du rendez-vous majeur qui est la Casino Coupe Clark. Une réunion qui met en valeur les chevaux de 3 ans, le prix d'encouragement de la province sud sur 1600 mètres. C'est une épreuve annuelle importante du calendrier, puisque c'est les chevaux d'avenir. Qui a vu donc la victoire de Star de Watom devant Baby Groove et Belle Lago de Luxe. Et puis bien sûr, le prix Jacques Lafleur, qui avec les potentiels prétendants à la prochaine Casino Coupe Clark. Le prix Jacques Lafleur a vu la victoire de Star, qu'on n'avait pas forcément vu aux meilleures places depuis le début de saison. Et de Star s'est rappelé à d'autres bons souvenirs au bon moment. De Star qui l'emporte devant Heart Magical et Super Kiwi.
Et dans 15 jours, le monde des courses hippiques prendra la direction de Nouméa avec tout d'abord la Clark Warm-Up sur l'hippodrome Henri Millard.
Et un coup d'œil au reste des résultats, Mickaël.
Et en cyclisme, la fin du Grand Prix des disparus à Bourail avec Ryan Lachny qui l'emporte au général après s'être imposé sur le contre-la-montre hier et en terminant deuxième de la course longue aujourd'hui avec la montée du col des Bogen. Chacharet de l'ECV a emporté cette troisième et dernière étape ce dimanche devant donc Ryan Lachny de Sport Pro et Thomas Rizzolatti, troisième sous les couleurs de l'ECV. Mélanie Allier de l'ECV s'est classée meilleure féminine devant Jessica Belenguez du CS Bourail et Patricia Temereau de l'ECV. Ryan Lachny gagne donc le général devant Florian Barquette du VCC Mondor et Chacharet de l'ECV. Mélanie Allier s'est adjugée la victoire finale chez les dames devant Patricia Temereau et Jessica Belenguez. Et puis une dernière affiche en football pour les huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie au lendemain de l'élimination de l'AS Magenta par Cougny, 1-0. Cet après-midi, Essor d'Imbéa fera face à Thiosport.
Merci Mickaël, midi 33 minutes, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, il sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Bon après-midi sur Radio Rythme Bleu. On se retrouve à 13h pour d'autres infos.